Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'Accès libre. Vous le savez, Canalem, la radio de Vuzévoix, vous accompagne souvent dans la vie, dans vos oreilles, mais vous savez peut-être, ou vous savez peut-être pas, que beaucoup de gens ont besoin qu'on les accompagne pour exécuter les tâches de la vie quotidienne ou tout simplement pouvoir la faire, l'accomplir, cette vie quotidienne. Donc, on espère aujourd'hui faire une place de choix, un organisme qui est nécessaire, qui accompagne les personnes en situation de handicap et les aînés depuis longtemps. On parle de PIMO. On reçoit sa directrice générale, un accompagnateur et une personne accompagnée. Ça tombe bien aussi parce qu'on en profite pour présenter la première chronique de Pierre Valois qui, lui, accompagne les groupes communautaires afin qu'elles aient une meilleure gestion de leur démocratie, on va dire ça comme ça. On fera aussi un portrait d'une femme essentielle pour le mouvement des droits des personnes aveugles, Mme Francine David. Et dans la première partie de cette émission, l'incarcération des personnes qui présentent un trouble de santé mentale ou simplement un trouble du spectre de l'autisme. Benoît Côté du programme d'encadrement clinique et d'hébergement vient nous en parler. Et bien sûr, Laurent Trépanier-Capistran, notre juriste à domicile, nous présente les droits de ces personnes. Tout ça sur Canalem, la radio de Vuzévoix. En août dernier, une histoire qui nous a beaucoup interpellés. José Asperger est atteint du syndrome de la Tourette, a été incarcéré pour des petits vols. C'est l'histoire d'une personne, mais il semble qu'on compte, qu'on dénombre plutôt une surreprésentation des personnes qui ont un trouble de l'autisme et qui sont en prison, qui sont incarcérées. Donc, pour savoir ce qu'il y a derrière ces histoires, on reçoit Benoît Côté, qui œuvre depuis longtemps avec les populations qui vivent cette situation. Bonjour, Benoît Côté.
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, rappelons que vous êtes directeur général du PECH, Programme d'encadrement clinique et d'hébergement. Avant qu'on discute précisément de ce que vous faites au programme, au PECH, est-ce que la prison est devenue un lieu de prise en charge des cas de santé mentale, M. Côté?
C'est une tendance dans tous les pays industrialisés depuis plusieurs années, particulièrement aux États-Unis, qu'on peut observer. Et cette tendance-là, malheureusement, touche aussi la province de Québec. On constate, par exemple, depuis 3 ans, nous avons une personne de pêche qui travaille en détention, l'établissement de détention de Québec.
Ah oui, donc, pêche. Qui travaille vraiment en proximité là, avec les gens incarcérés. Là.
Oui, directement.
Okay.
Et ces personnes qui ont un problème de santé mentale et de toxicomanie qui sont vues par notre intervenante. On est passé de 175 personnes il y a 3 ans à plus de 330 au cours de la dernière année. Donc, ça a doublé
dans la dernière année?
Dans les 3 dernières
années. Dans les 3 dernières
années. C'est préoccupant. Ça suit une tendance des pays industrialisés. Tout se passe comme si la prison était devenu lieu de prise en charge des personnes qui vivent des problématiques multiples. Et ça comprend aussi les personnes autistes, là, comme vous, dans votre introduction dont vous parliez là, tout à l'heure.
Avant qu'on parle de votre travail spécifique, parce que vous êtes des gens dédiés et en première ligne, continuons de parler de ces problèmes sociaux. Comment ça se manifeste dans une prison, ces personnes qui sont incarcérées? Comment vous pourriez décrire leur vie pour que les gens comprennent bien là, l'ampleur des difficultés?
D'abord, c'est des personnes qui commettent la plupart du temps des délits mineurs. Là, bon, c'est troubler la paix ou c'est des vols simples ou des fois ça peut être des vols qualifiés. Il y a toute une gradation de délits là-dedans, mais il faut comprendre que pendant longtemps, il y a une vingtaine d'années, la prison, pour certains patrouilleurs de la ville de Québec, c'était vu comme le seul endroit où on pouvait offrir gîte et couvert à quelqu'un qui était dans la rue.
À ce point-là?
Je pense que dans
c'est un réflexe?
Ben, il n'y avait pas tellement d'alternatives à ce moment-là. On a même entendu dire sous le couvert là, de la confidentialité que des policiers qui étaient il y a 10 ou 15 ans sur la rive sud de Québec, Lévis par exemple, prenaient une personne qui avait l'air désorganisée dans la voiture et l'amenaient à la traverse de Lévis, pour ceux qui connaissent Québec, là, et puis disaient, ben, va-t'en de l'autre côté puis demande de l'aide de l'autre côté. Donc, c'était une façon d'expédier Manu Militari une personne. Mais il faut comprendre que l'itinérance et tous les phénomènes d'exclusion sociale puis de désaffiliation sociale, à la décharge des policiers, ils sont aux prises avec ces réalités-là comme intervenants de première ligne. Mm-hmm. Dans 80% de leur travail de policier. On entre dans la police pour faire des courses folles en voiture, pour attraper les bandits, etc., etc. Ça fait un peu série plus, là. Mm. Mais ta réalité de patrouilleur, c'est que tu es dans les situations de crise psychosociale ou psychiatrique, violence conjugale, toxico, etc., là, à cœur de jour.
Mais on entend l'éditorial, plus de travailleurs sociaux ou de travailleurs de milieu plutôt que policiers. Écoutez, ouais. Je vous demanderais, j'entends tout à fait le phénomène, on est un peu scandalisé, on est plusieurs à table déjà, là. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour éviter, ou qu'est-ce qu'ils ont fait, si c'est le cas, pour éviter ce recours systématique à la prison?
En dehors des heures de travail pour des clientèles qui vivent une situation de crise. Par exemple, à Québec, là, malgré la réorganisation des CIUS fait en sorte que on manque d'accès après 17 heures à des services où tu peux être reçu par quelqu'un qui va faire une intervention de crise normale, de décompression, qui va t'écouter. La seule alternative pour beaucoup de Québécois ou de Québécoises en ce moment, là, après 5 heures, 17 heures, on va où? On appelle le 911 ou on va à l'urgence d'un hôpital, puis on va à l'urgence psychiatrique. Et on devrait, je pense, multiplier les occasions où il y a bien le service 811, là, au téléphone, où on peut parler à quelqu'un au téléphone, là. C'est bien.
À Québec, ça?
Ben, c'est partout dans la province.
Ah,
là.
Oui?
Oui, oui.
OK.
On appelle ça c'est l'urgence sociale. C'est un numéro de téléphone que les CIUS mettent à disposition de la population. Mais si tu veux rencontrer quelqu'un, en direct, comme dirait l'autre, avec une vraie personne qui va t'écouter et dans un délai rapide et qui peut faire une intervention, il n'y en a pas. D'abord, on a un autre problème en amont de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues disponibles. Là. Il y a des listes d'attente infinies là, pour des gens.
Puis rappelons aussi qu'à court terme, il n'y a pas de service pourvu en psychologie.
Alors, ça fait 25 ans qu'on parle de l'importance de développer des services de première ligne au Québec. Mm-hmm. Et tout ça, c'est du discours, peu importe les gouvernements. Il n'y a jamais un gouvernement qui a vraiment saisi le taureau par les cornes pour investir massivement, malgré toutes les études qui disent que ce qui fonctionne, c'est des services près de la communauté, près des gens, direct, accessible, le plus possible, là, en dehors des heures du 8 à 5. Quand les gens travaillent, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir une plage? On peut toujours trouver quelque chose, mais je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur des services de première ligne, après 17 heures notamment. Il y a les organismes communautaires, les centres de crise qui font ce qu'ils peuvent au Québec pour répondre le mieux possible aux besoins des gens, mais c'est pas suffisant.
Donc, mais non, puis faut le dire, vous parlez des centres de crise, là, mais c'est des initiatives communautaires. Il y a certaines régions qui ne sont pas desservies par un centre de crise, certaines régions qui sont un peu mieux desservies. Oui. Il n'y a pas de régularité là-dedans. Donc, on entend, il faut prendre les choses en amont, offrir des services dans des temps normaux, des services sociaux. Mais je voudrais revenir.
Malgré qu'on soit on a un service de crise avec les policiers de la Ville de Québec, il y a 700 patrouilleurs depuis 2002 qu'on accompagne lorsqu'ils sont devant un individu, une personne qui semble bizarre, qui a l'air vivre une crise psychiatrique ou psychosociale, ils nous appellent. Donc ça commence à 8 heures le matin, ça finit à minuit le soir, 365 jours par année. C'est près de 1500 personnes à qui on offre des services d'intervention de crise parce qu'ils nous sont référés par les policiers. Et malgré tout ça, les prisons sont provinciales, sont pleines, sont en surnombre de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, évidemment, on peut parler de profilage social, mais on peut aussi parler de difficultés des organisations traditionnelles à accueillir nos gens. Bon, pour tout vous dire, les gens qu'on accompagne à pêche, qui ont un problème de santé mentale, qui ont un problème de toxicomanie, ils vont pas se présenter dans un GMF high-tech avec des belles lumières halogènes et tout ça, ils se sentent pas accueillis là-dedans. Là.
Non, effectivement.
Donc, ils vont attendre pour recevoir l'aide d'organisations liées au réseau de l'itinérance ou de pêche, mais quand ça va pas du tout, ils sont ramassés par les policiers, puis finalement...
Ils finissent à la prison.
Ouais, ben oui, ils commettent des délits. Ouais. Parce qu'ils ne vont pas en prison juste pour avoir un service psychosocial. Ils ont commis un délit, mais c'est parce que la situation s'est détériorée. Les personnes se retrouvent à ce moment-là amener pour un examen d'aptitude à comparaître. C'est un peu du jargon pour les auditeurs. Là.
Non, mais c'est clair. Mais écoutez, Benoît Côté.
5 jours en attendant d'être déclaré apte ou inapte à comparaître à la cour municipale. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, ils ont vécu une expérience très traumatisante.
Oui, c'est ça.
Beaucoup d'utilisateurs qui m'ont dit que l'expérience la plus difficile qu'ils ont vécue dans leur parcours, on pourrait dire, là, de psychiatriser, c'est la prison. Quand tu entends des voix...
Mais écoutez, Benoît Côté, on est d'avis avec vous qu'il ne faut pas envoyer ces gens en prison, oui. Qu'il faut tout faire ce qu'il faut en amont. Et j'aurais aimé qu'on parle davantage de pêche, mais malheureusement, le segment tire à sa fin.
Les gens sont intéressés à aller voir ça.
voilà, c'est ça. C'est que je veux renvoyer les gens vers vos services. Donc, il est possible, entre autres, par téléphone, de vous rejoindre par Internet. Donc, dites-nous comment on fait pour vous rejoindre.
Pour la région de Québec, c'est tout simple. C'est un numéro de téléphone, 418.
Oui.
522-2820.
C'est noté et on va l'ajouter bien sûr sur la page de notre émission. Benoît Côté, directeur général du programme d'encadrement clinique et d'hébergement, merci pour votre travail.
Merci.
Que ce soit pour mieux comprendre comment ne pas agir comme on l'a fait avec José, cette personne autiste arrêtée pour des crimes presque dérisoires, ou simplement pour se questionner sur les droits des personnes autistes, qu'on reçoit notre juriste à domicile, Laurent Trépanier-Capistran. Bonjour.
Bonjour, Benoît.
Content que tu sois de retour avec nous, là, même si Clotilde Selle t'avait piqué cet été.
Oui, j'essaie de me dédoubler, là, de participer à toutes les émissions que vous me proposez. C'est toujours un plaisir.
Bon, content. Donc, on parle, entre autres, des personnes autistes. Quels sont leurs droits, évidemment, quand elles commettent des crimes, là? On s'entend, c'est ça le contexte, là. Quels sont leurs droits, Laurent Trépanier-Capistran?
Bien, en fait, c'est important de dire que les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme, et là, je vais employer peut-être aussi la contraction, le TSA, en fait, ont les mêmes droits que tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment primordial de le rappeler. Puis le vrai enjeu ici, c'est peut-être plus d'obtenir la reconnaissance de ces droits-là dans la réalité ou une application qui est, disons, adaptée à les situations qu'ils vivent, parce que c'est bien évident que c'est pas parce qu'on possède un droit qui va nécessairement être reconnu pleinement ou appliqué dans la société ou par la société. Donc,
comme vous dites souvent, les personnes ont des droits, mais des fois, les lois puis les règlements les reconnaissent pas.
Effectivement. Bon. Des fois, il y a une problématique à ce niveau-là.
OK. Alors, quand un crime est commis là, par une personne qui est à risque d'être reconnue comme, là, l'expression, on l'entend souvent, non criminellement responsable. Là, je veux pas faire de mélange, là, je vous avertis, personne à la maison, mais dans la loi, il y a le mélange. Donc, si on a une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme ou qu'on a un problème de santé mentale, on est dans la même case, le plus ou moins. Je veux juste le rappeler pour le dire. Donc, Laurent Trépanier-Capistran, comment on fait pour départager tout ça?
Bien, en fait, en ce qui concerne, là, parce que quand on en pense à non criminellement responsable, souvent dans l'esprit des gens, en fait, ça l'évoque qu'on se retrouve pas en prison ou pénitencier. Hein, donc, on n'est pas emprisonné. C'est important de faire une distinction parce que soit qu'on est envoyé à la prison ou à l'hôpital, ça relève de conséquences de décisions judiciaires qui sont différentes. Ouais. Donc, soit on est déclaré coupable et à ce moment-là, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, on peut être emprisonné, ou on va être déclaré non criminellement responsable. Dans ce cas-là, on peut être aussi détenu, mais on va plutôt être dirigé vers l'hôpital ou des services en psychiatrie. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on entend par non criminellement responsable? C'est important de démystifier ce terme-là parce qu'on l'a beaucoup entendu avec
Guy Turcotte.
Guy Turcotte, entre autres, et là, ça l'a marqué les esprits. Donc, en fait, non criminellement responsable, ça correspond à une personne qui sait pas faire la distinction entre si le geste qu'elle a commis, c'est un geste qui est bien ou qui est mal. Autrement dit, la personne, elle doit comprendre que ce qu'elle a fait, c'était mal pour pouvoir être déclarée coupable. Mm. Si elle n'est pas en mesure de faire cette distinction-là, si elle n'a pas le jugement nécessaire pour faire cette distinction-là, à ce moment-là, on va la déclarer non criminellement responsable. Non criminellement responsable, Benoît, ça n'équivaut pas à un acquittement. Ça veut simplement dire que, finalement, Ce qui va se passer, c'est que notre dossier ne sera pas pris en compte par la justice ou le système, en fait, carcéral. C'est qu'on va... Ce qui se passe généralement, c'est qu'on est référé à une commission d'examen, donc qui comprend 5 personnes dans la plupart des cas, dont au moins un psychiatre, et que cette commission-là étudie le dossier précis de l'individu avec deux objectifs bien précis en tête. C'est-à-dire de traiter les troubles mentaux ou les problèmes d'ordre psychiatrique qui sont vécus par cet individu-là.
Oui, parce que la personne a besoin d'être traitée.
A besoin d'aide. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'est désorganisée puis qu'elle a commis un délit ou un crime. Et ensuite, c'est bien important aussi de le dire à vos auditeurs, c'est que ça vise à protéger le public. Donc, si jamais il y a un danger pour la société que cette personne-là soit libre, la commission va prendre une décision pour restreindre sa liberté ou carrément la détenir, mais... souvent dans un hôpital ou un endroit où elle va pouvoir recevoir des services particuliers relatifs à ses problèmes d'ordre psychiatrique ou ses problèmes de santé mentale, en fait.
Donc, quand ça arrive, quand ces personnes-là commettent des crimes, bon, puis on les reconnaît, etc., est-ce qu'il y a des solutions à préconiser, pas juste quand la personne est arrêtée, là, avant, puis en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, bien, en fait, souvent la personne va être arrêtée malgré tout parce que le système judiciaire doit se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, il existe, c'est pas toujours appliqué, mais il existe un programme de déjudiciarisation. Donc ça, la déjudiciarisation, c'est lorsqu'on a un dossier qui, après ma barre, est judiciarisé. Donc, par exemple, il y a eu une infraction qui a été commise, puis une accusation qui est portée contre cette personne-là, eh bien, là, à ce moment-là, on peut utiliser un programme de déjudiciarisation, c'est-à-dire qu'on va remplacer le processus judiciaire par une autre alternative.
Ça arrive souvent, ça? Parce que ça veut dire que la personne n'est pas acquittée?
C'est-à-dire qu'on va
dire un peu?
On va lui dire, en fait, si vous vous soumettez à ce programme-là, finalement, vous ne passerez pas au travers du processus judiciaire. C'est pour ça qu'on dit qu'on la sort un peu de ce processus-là.
OK. Ça, c'est dans des circonstances très précises, vous allez
dire. C'est dans des circonstances très précises, c'est ça. Je pense, par exemple, au programme qui s'appelle, un long nom, mais il s'appelle Programme Accompagnement Justice Santé Mentale. Et puis ça, ça vise les infractions qui sont sous la juridiction de la cour municipale. Donc, on peut penser à
des meurtre,
délits. On parle pas de meurtre, évidemment. Et puis, ça s'adresse aux personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Après vérification auprès du ministère de la Justice, on nous dit aussi que les personnes qui ont un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme, sont admissibles à ce programme-là. Donc ça peut être une alternative qui peut être à préconiser, mais évidemment, tu le soulignais tout à l'heure, Benoît, ça c'est dans un contexte où la personne fait déjà l'objet d'une judiciarisation et qu'on déconstruit un petit peu ce phénomène-là, donc on n'est pas dans une optique de prévention ici.
Oui, OK, bon, fallait le spécifier parce que j'ai eu l'air de dire ça, c'est pas ça que je veux dire, mais donc, ce dont vous parlez, cette espèce de déjudiciarisation, serait applicable probablement pour le cas de José.
C'est toujours difficile de se prononcer sur un cas qu'on
a
lu dans les médias.
Donc,
mais oui, effectivement, ça, c'est des choses qui, si on parle globalement, en fait, peuvent être appliquées pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
Mais c'est une option.
C'est une option. Et puis, c'est une option qui gagne à être connue, en fait.
Bien, content que vous l'ayez fait connaître. Est-ce que ça a marché jusqu'à maintenant? Il nous reste peu de temps, mais ces mesures-là dont vous parlez, que ce soit la déjudiciarisation ou peut-être la reconnaissance de la non-criminellement responsabilité, est-ce que ça fonctionne en ce moment, en quelques mots?
Des verdicts non-responsabilité criminelle, il y en a plusieurs. Ça l'arrive, ça fait partie du système. Sauf que je me rapporte un peu au cas de José, ou du moins ce que ça l'évoque. Et puis, il faut dire que, bon, c'est peut-être que les besoins, en fait, de ces personnes-là sont davantage au niveau de la santé et des services sociaux, plus qu'au niveau de besoins juridiques. Donc, on semble être confronté un petit peu à un échec du réseau de la santé et des services sociaux, ou du moins ce qu'on peut sentir comme étant ça, parce qu'il n'y a pas de réponse aux besoins qui ont été exprimés par cette personne-là, ou ces personnes-là, devrais-je dire. Et puis, évidemment, le système judiciaire n'a pas su corriger cette erreur-là. Puis, encore une fois, comme ça l'arrive souvent, on a pu constater qui n'est pas tout à fait adapté à la réalité et encore moins à celle des gens qui sont plus vulnérables, il faut le dire, c'est important de le rappeler.
Bien, vous vous accordez avec Benoît Côté du PECH qui était avec nous plus tôt. Il faut travailler en amont, il faut aider les personnes avant de les mettre en prison.
Tout à fait.
Merci beaucoup Laurent Trépanier-Capistran, juriste pour Juriste à domicile.
Merci à vous.
Vous nous en voudrez pas, on s'adresse souvent aux citoyens ici. Mais notre toute nouvelle chronique qu'on vous propose s'adresse, disons, aux citoyens organisés, c'est-à-dire les organismes communautaires. Et donc, on a fait appel au Centre de formation populaire qui accompagne les groupes depuis presque 45 ans. Pierre Valois est avec nous, répond à une question pas simple. La gestion démocratique de notre organisme, est-ce que ça commence par le conseil d'administration? Bonjour Pierre Valois.
Bonjour.
Donc, c'est une bonne question quand même.
C'est une bonne question. On pourrait remplir la chronique au complet avec la simple question.
C'est bon.
Ben, pour moi, quelqu'un qui fonctionne, qui participe à un conseil d'administration, c'est quelqu'un qui a à cœur finalement la mission du groupe dans un premier temps.
Mm-hmm.
C'est une personne qui est prête à donner un certain nombre de jours ou d'heures en termes de bénévolat ou de militantisme, qui comprend bien la mission du groupe, qui comprend bien ses valeurs, comprend bien sa culture,
mm-hmm.
et qui ne voit pas son rôle comme une simple personne qui va voir à la saine gestion du groupe.
Ah ben oui.
Le souci démocratique est aussi présent, pour moi, en tout cas, dans chacun des conseils d'administration, ou devrait l'être, et chacune des personnes qui intervient comme élue par son Assemblée générale, devrait avoir ce souci-là de démocratie pour mieux intervenir, mieux comprendre, mieux agir, mieux décider
mm-hmm.
quand on parle d'un organisme communautaire.
Mm. Mais là, on comprend bien votre posture. Il faut dire que vous parlez souvent avec des organismes communautaires autonomes hein, qui ont le souci d'avoir une démocratie, un lien avec leur vie associative. Mais la question pratique maintenant, comment on constitue son CA? N'importe quel organisme, bon... qui serait communautaire, comment il fait pour le constituer son conseil d'administration?
Ben, il y a beaucoup. Moi, je pense que c'est important de tenir, d'avoir des liens fréquents avec nos membres.
Oui.
Pour qu'eux-mêmes puissent éventuellement se sentir inspirés pour participer à ce qu'on appelle l'Assemblée générale annuelle.
Mm-hmm.
Peut-être dans un premier temps pour ne prendre que la parole sur les objectifs, les actions de l'organisme et prendre petit à petit le pouls du groupe pour éventuellement peut-être, bon, en tout cas, si juste sur un comité de travail, et ultimement, peut-être participer au conseil d'administration.
Ah ben oui.
Il y a des conseils d'administration qui vont aller au-devant, hein, qui vont prendre le temps d'inviter des membres à des rencontres pour leur expliquer
un peu. Oui, c'est ça. Même si on n'est pas un membre formel du conseil d'administration, on peut y participer, on peut y aller. C'est ça que vous dites?
Il y a souvent, dans les fins d'année financière, des conseils d'administration qui vont inviter les membres à participer à une rencontre pour mieux les outiller, mieux leur expliquer ce que c'est qu'un membre de conseil d'administration.
Okay.
Mais il y a beaucoup de demandes. Hein. Quand on parlait du mouvement communautaire autonome, donc 4300 organismes, à peu près 25 à 30 000 administrateurs et administratrices. Donc, c'est énormément de personnes qui sont sollicitées et souvent, on sollicite les mêmes personnes.
Ouais.
Donc, pour moi, un des enjeux, c'est aussi d'avoir des gens qui prennent à cœur ou qui portent à cœur la mission du groupe et qui ne collectionnent pas des participations au conseil d'administration.
Donc, quand on regarde notre organisation pour trouver quelqu'un qui pourrait être partie prenante d'un conseil d'administration, on regarde qui milite déjà, qui donne déjà du temps. C'est ce que vous proposez, au fond.
Ben, qui donne du temps, qui est intéressé, ça peut être aussi, ça dépend de nos règlements généraux, bien entendu.
Ouais.
C'est la première chose à connaître comme membre de conseil d'administration.
Mm-hmm.
Il peut y avoir des postes réservés à la collectivité,
okay.
mais la grande majorité des conseils d'administration fonctionnent sur la base des membres qui, en assemblée générale, élisent des pairs pour les représenter au conseil d'administration.
Donc, Donc, ce sont ces gens-là qu'on devrait inciter particulièrement. Est-ce qu'on leur demande carrément comme ça à ces personnes-là? Comment on devrait procéder, Pierre Valois?
Ben, souvent, dans les règlements généraux, les gens ont la possibilité de se faire nommer ou se faire inviter à siéger au conseil d'administration, se faire proposer.
Mm-hmm.
Il y a des endroits où les gens peuvent se proposer eux-mêmes. Il y a d'autres endroits où, avant même l'Assemblée générale, on va avoir sondé nos membres et on sait qu'il y en a peut-être certains qui vont être intéressés.
Mm.
Donc, on peut, comme conseil d'administration, les amener comme éventuel nouveau membre du CA, être recommandé une personne. Mais en même temps, on s'assure toujours que cette personne-là va avoir, d'une part, le temps de faire les rencontres, qu'elle va être là de façon régulière, qu'elle va avoir le temps de bien préparer les réunions. Parce que les gens confondent souvent une participation au conseil d'administration, c'est deux heures et demie de rencontres. Moi, je crois que c'est au moins une heure de préparation, dans la mesure où on a des documents. Et ensuite, deux heures de conseil d'administration, et par la suite, peut-être un petit briefing. Là.
Oui.
Donc, c'est quand même plus que le temps imparti à la réunion elle-même.
Mm-hmm.
Si on veut
c'est comme ça que ça fonctionne bien, au fond, hein, parce qu'on peut prendre des décisions éclairées quand on a pris connaissance des documents. Donc, dans le fond, il faut dire ça, aussitôt qu'on sollicite une personne ou qu'on l'invite à devenir membre, que ça prend un certain nombre de temps. Là.
Ça peut, je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser la tâche qu'un membre de conseil d'administration, parce que souvent, un membre de conseil d'administration va être au CA.
Mm-hmm.
Il peut être membre de comité ou représenter le conseil d'administration sur les comités de travail de la corporation. Donc, immédiatement, ça peut faire deux rencontres.
Mm-hmm.
Pour moi, en tout cas, c'est sûr de bien baliser, de bien dire ce que ça prend comme temps, Et en même temps, tenir compte de ce que la personne peut donner comme énergie, parce qu'il y a peut-être des membres de CA qui vont être super intéressants pour l'organisme et super intéressés pour eux-mêmes. Pour un conseil d'administration, mettons une fois par mois, à peu près la fréquence habituelle. Donc, on ne sera pas nécessairement, par contre, invité pour siéger sur des comités, mais elle va pouvoir donner son point de vue d'individu. Hein, c'est toujours un individu qui est élu, mais en pensant à l'ensemble des activités de l'organisme, à l'ensemble de la mission du groupe, à l'ensemble des objectifs qu'on veut atteindre annuellement.
Mais c'est important ce que vous dites, parce que quand on siège sur un conseil d'administration, ça veut dire qu'on le fait comme citoyen, là, comme personne, même si on a une affiliation avec un groupe ou autre. Est-ce que les gens sont conscients de ça quand ils sont sur les conseils d'administration?
Bon, la plupart des gens sont conscients, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui siègent sur plusieurs conseils d'administration et des fois essaient de dénaturer le fonctionnement d'un groupe parce qu'elles préfèrent celui d'un autre organisme.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça que je dis que c'est
important. Ah oui, donc ce qu'elle apprend dans un conseil, elle veut le ramener dans un autre.
Chaque groupe est distinct. Hein? Ouais. Chaque groupe a sa culture, ses valeurs, son fonctionnement. Donc, on n'a pas à imposer un fonctionnement. Mm-hmm. On peut discuter de nos façons de voir les choses, mm-hmm. de la façon dont on peut prendre des décisions, mais en même temps, il faut aussi surfer sur la vague actuelle qui est déjà existante, sans avoir à remettre en question constamment les façons de faire qui peuvent être différentes d'un groupe à l'autre.
Parce qu'on amène des choses, dans le fond, comme administrateur, administratrice, mais il faut toujours être respectueux de ce qui existe déjà, puis être au service de la corporation. C'est ce que vous dites. Ouais.
Exactement.
Petite question en quoi? Une minute pratiquement? Comment on les mobilise, ces membres-là? Et est-ce que c'est possible de répondre rapidement? Vous pouvez me dire non, là.
Ben, je pense que les membres d'une corporation les plus mobilisés, ce sont les membres de conseil d'administration.
Ah oui, hein?
Donc, c'est eux qui sont. En tout cas, ils décident de faire le pas, c'est-à-dire de se présenter aux élections et de se faire élire.
Mm-hmm.
Donc, mais comment mobiliser les membres de l'association à assister aux assemblées générales pour prendre en compte les résultats d'une année, d'un bilan qui a été fait par ou en tout cas rédigé? D'une part, avec la coordination et le conseil d'administration, c'est bien entendu l'information. Maximiser les temps d'information, les bulletins d'information qu'on utilise à la page Facebook, mm-hmm. ou au moins le courriel, rendre compte de tout ce qu'on a fait dans les réunions précédentes.
Donc, un bon membre du conseil d'administration, c'est un membre bien informé, intéressé, qui sert la mission. Je pense qu'on a bien compris notre première leçon. Pierre Valois, vous êtes conseiller et formateur en vie associative au CFP. Merci beaucoup.
Bienvenue.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Vous avez peut-être croisé quelques rires ou beaucoup de plaisir en studio. Non, c'est pas ça que j'allais dire, mais c'est quand même ça qui arrivait tout juste avant que j'entre en onde avec vous. En fait, vous avez entendu peut-être le slogan « On sort ensemble ». Ça veut dire, ce slogan-là, que PIMO existe et qui permet à des gens de sortir ensemble via l'accompagnement. On va tout vous expliquer ça dans le cadre de cette rencontre. Mais avant que je vous explique ce qu'est l'accompagnement, il faut que je vous présente les trois personnes qui le portent aujourd'hui et qui sont présents avec nous en studio. D'abord, Daniel Le Théoret, qui est membre de l'organisme PIMO et qui a bien besoin des services d'accompagnement, qui les apprécie. Bonjour, Daniel Théoret.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Et Guy Bernier, tout juste à côté, comme tout bon accompagnateur. Bonjour, Guy Bernier.
Bonjour.
Marie-Josée Dette, directrice générale de PIMO. Bonjour, Marie-Josée.
Merci de nous recevoir.
Bien, c'est un grand plaisir parce que, vous savez, accompagner, alors nous, on sait recevoir. Là, ça fait qu'on peut passer un beau moment ensemble. Je commencerai peut-être d'abord avec vous, Marie-Josée Dette.
Mm-hmm.
Vous êtes directrice générale de PIMO. Vous êtes au service de la mission de cet organisme-là depuis 1996.
Oui.
Qui vous étiez à ce moment-là, quand vous êtes arrivée à l'organisme?
Il faut que je vous avoue que quand je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout le milieu du handicap.
Ah oui?
Oui, du tout.
C'est comme ça que vous l'avez rencontré, au fond.
Ah oui, c'est ça. Puis quand j'ai rencontré Pierre-Yves Lévesque, le fondateur de PIMO via le NIC à l'époque, je ne le comprenais pas du tout. Il y avait un énorme problème d'élocution.
Oui.
Puis là, je me disais, je serais ça se peut pas, là. J'étais en entrevue, je me disais, je serais incapable de travailler avec lui, je comprends rien. Puis je parlais de mes... Je répondais à ses questions d'entrevue, puis là, il m'a dit, tu vas me dire, moi, qu'est-ce que je t'ai dit? J'étais incapable, là, je me suis dit, c'est pas vrai, j'aurais jamais l'emploi. Ouais. Puis il a fallu que je lui avoue que j'avais rien compris.
Ah ouais.
Puis bon, finalement, de fil en aiguille, il m'a pris quand même, mais on apprend à comprendre un deuxième, parce que c'est un langage.
Hein. Ouais.
On développe l'oreille, puis c'est sûr que c'est un milieu marginalisé beaucoup, mais c'est vraiment un milieu attachant
ouais,
aussi. Là.
Enrichissant, puis en ouais, fait, très... probablement ce qu'il avait vu, Pierre-Yves Lévesque, à l'époque, en vous regardant, c'est que vous étiez ouverte, prête à aider, soutenir, puis en même temps avouer que vous ne réussissiez pas du premier coup à entendre ou à comprendre. Ça, souvent, les personnes handicapées apprécient parce que ça permet des vrais rapports. Là, tu sais.
Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis il faut aussi, je pense qu'il faut aussi parler de nos incapacités à nous aussi, mm-hmm. de reconnaître le handicap, d'avoir à dealer avec aussi, hein, parce que au début, ça peut être même un peu repoussant quand on n'a pas l'habitude. Puis dans le fond,
parce
à force
peur,
de les côtoyer, le handicap, il disparaît, puis on voit vraiment la personne. Mm-hmm. C'est ça, le handicap n'est plus devant nous.
Bien, je pense que c'est très heureux comment vous présentez ça, parce que ça met la table. C'est un moyen de se rencontrer entre personnes. C'est ça, peut-être, l'accompagnement. Madame Théoret, vous êtes membre de PIMO depuis 10 ans. Vous avez... j'aille ça présenter les gens avec leur maladie d'emblée, mais comme on est à la radio, il faut être précis, vous m'en excuserez, mais donc, je dirais que vous avez une maladie évolutive qui commande du soutien, et vous êtes devenu aveugle aussi. C'est important parce que les gens qui nous écoutent sont souvent des personnes aveugles. Qu'est-ce que vous recherchiez quand vous êtes allé vers PIMO? De quoi vous aviez besoin?
Premièrement, avant de connaître PIMO, j'ai été 1 an sans être capable de sortir de mon domicile.
Oh.
Alors, j'étais pris entre 4 murs jusqu'à temps de connaître l'association PIMO.
Mm-hmm.
Et c'est à ce moment que maintenant, ça fait 12 ans que je suis membre environ.
Mm-hmm.
Et ça donne tellement d'opportunités et de plaisir que j'aurais jamais pensé avoir un jour.
Mm.
Juste d'être capable de... moi, c'est par un travailleur social que j'ai appris à connaître PIMO, mais j'en avais pas besoin à ce moment-là d'aide.
Mm.
C'est par la suite, quand ma mère est tombée en fauteuil roulant, que là, la nécessité est...
Ouais, parce qu'au fond, avant, c'était
d'avoir quelqu'un.
C'était souvent votre mère qui vous accompagnait, c'est ce que vous
entendez.
Okay.
C'est très difficile de trouver des accompagnateurs comme PIMO ont maintenant.
Mm.
C'est, ça a pris du temps, mais quand j'ai eu la chance et le privilège de connaître PIMO, ça a ouvert des horizons pour moi, pour avoir des buts, des loisirs, avoir des petits plaisirs, comme aller dans les restaurants.
Ben oui.
J'aime profiter de l'occasion pour aller prendre un bon café avec un petit gâteau. Vous savez, des petits plaisirs de la vie.
Ben oui, que dont tout le monde a besoin.
Hein, oui.
pour l'apprécier, pour la goûter, cette vie-là. Guy Bernier est accompagnateur chez PIMO. Donc, c'est quelqu'un avec qui on peut sortir, prendre un café ou aussi même des trucs plus, j'oserais dire, formels, comme aller à l'hôpital ou peut-être faire l'épicerie. Guy Bernier, bonjour.
Bonjour.
Donc, qu'est-ce que vous faites exactement chez PIMO comme accompagnateur?
Bien, comme accompagnateur, bien sûr, on a, comme tu l'as mentionné un peu, on a des sorties de tout genre. On
mm-hmm.
peut, comme tu as dit, aller à son rendez-vous médical, on peut aller faire l'épicerie, on peut aller à l'entraînement, à la piscine, au gymnase, on peut aller au planétarium. En fait, quand moi, je ne décide pas qu'est-ce que l'on fait, c'est la personne qui choisit, c'est elle qui décide, et le temps qu'elle le veut, elle mm-hmm. fait la demande à l'organisme auprès du coordonnateur qui va jumeler un accompagnateur ou une accompagnatrice qui va le diriger. Et nous rencontre la personne et on sort avec elle ou lui. Et c'est magnifique. Hein?
Ben
vraiment,
oui.
J'adore ça. Je découvre un monde depuis 3 ans. C'est vraiment fantastique.
Ben, on le sent, les gens ne vous voient pas, mais on sent que ça vous touche au cœur, ces accompagnements-là. En fait, vous en faites depuis 3 ans, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous trouvez que... c'est connu, hein? Est-ce que on vous avait déjà parlé de ça, l'accompagnement, avant que vous en fassiez aujourd'hui?
Avant d'en faire 3 ans auparavant?
Oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissiez ce domaine-là?
Je crois, pas pas comme tel, parce que j'ai jamais vu de poste comme accompagnateur. Mm-hmm. Pour moi, l'accompagnement ou accompagnateur prend tout un sens, de plus en plus prend un sens défini, très, de plus en plus subtil aussi. C'est mm-hmm. très... Et ça, pour moi, c'est quelque chose de... Non, j'avais jamais entendu parler de ça. Mm-hmm. Mais je pense que dans la vie, on est tous accompagnateurs. On le fait tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Peut-être ouais. pas dans un titre précis, mais on y va comme ça, on le fait. Et tranquillement, ben, nous, on a eu un titre d'accompagnateur et j'apprends à le perfectionner. J'apprends à rendre ça beaucoup, beaucoup, je pense, c'est la présence. C'est ouais. vraiment la présence à la personne qui fait toute la différence, beaucoup plus que ce que l'on fait, je mmh. pense. C'est sûr qu'il y a des choses physiques, ça c'est d'accord, mais je pense que la connexion avec la personne, pour moi, est une des choses essentielles
Mais c'est très différent, en fait, du préposé. On pourrait avoir comme exemple en tête les préposés aux bénéficiaires, les auxiliaires familiales qui vont dans le milieu, qui aident aux tâches quotidiennes ou aux soins de la personne. Mais vous, ce que vous dites, dans le fond, c'est que c'est quand même plus dans les rencontres extérieures, quand on sort du domicile ou de répondre aux besoins subtils des personnes à l'extérieur.
Exactement. Ouais. Moi, ce que j'aime de ce poste comme d'accompagnateur, c'est que ça rejoint tous les niveaux. Ça rejoint le niveau physique, intellectuel, émotionnel, spirituel, joie. Mm-hmm. C'est vraiment de tout.
Et même culturel.
Absolument, dans notre sens, absolument. Ouais. Et oui, tout à fait. C'est comme... Et nous, d'hommes, on n'est pas... on ne va pas au domicile, on peut aller chercher la personne au domicile, mais nous, c'est vraiment une sortie, et surtout, c'est 1-1. Ouais. On est toujours 1-1, donc on peut aller faire toutes les activités contrairement aux auxiliaires qui vont travailler dans un milieu plus précis, dans une maison. Mm-hmm. Alors nous, c'est des sorties surtout à l'extérieur, ce qui est vraiment... moi, je trouve que j'ai une grande liberté de faire ce travail-là.
Ouais.
Ça m'amène... Je suis très, très nourri par ça. Mm-hmm. Vraiment... Et j'ai envie de vous dire, je ne sais pas, parce que ce que j'avais reçu comme question par rapport à l'accompagnement, quand, le titre d'accompagnateur,
oui.
si vous permettez, j'ai envie de vous dire d'où
allez-y,
ça vient l'accompagnement.
Allez-y.
Comment ouais. je suis arrivé à ça?
Ouais.
Parce que, comme je n'avais jamais entendu parler de ça, j'étais dans une phase à partir de 2010, genre, j'ai pogné un creux, tu sais, un ouais. bon creux de ma vie, là.
Et comme ça peut arriver à tout le monde.
Exactement.
Hein, ouais.
Et là, je me suis remis en question, puis j'avais besoin de trouver comme quelle est ma tâche de vie. Mm-hmm. Et là, dans le cheminement, je creusais, puis à un moment donné, il est arrivé un événement dans ma vie, la décès d'un de mes plus jeunes frères, mm-hmm. que j'ai accompagné pendant les dernières semaines. Et là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire accompagnateur. Mais ça n'avait pas encore tilté en dedans de moi, ça. Mm-hmm. C'est juste un an plus tard, c'est arrivé le mot, parce que je cherchais un titre, tous les autres postes, les chapeaux que j'avais eus comme accompagnateur, mais enseignant, intervenant et tout ça, en disant, ça ne me fitait plus. Je voulais, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et tout d'un coup, ça a monté, le mot accompagnateur. Je dis, oh wow, c'est ça que je veux. Mm. Et un mois plus tard, je rencontre une amie, elle me dit, tu sais Guy, elle ne savait pas ce que je vivais. Elle me dit, il y a des postes d'accompagnateur qui est ouvert. Mm-hmm. Elle dit, si tu as envie d'appliquer, elle dit, je connais une amie qui m'a parlé de ça. Accompagnateur, je dis, ben écoute, c'est exactement ce qui
ça rimait ce que vous aviez en dedans.
Complètement ce qui avait émergé après quelques années vraiment d'introspection. Ça fitait exactement. Alors, j'ai appliqué pour le poste et me voici encore 3 ans après à redécouvrir ça et c'est complètement merveilleux.
Daniel, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer plusieurs accompagnateurs, accompagnatrices? Ça fait 12 ans que vous êtes là, c'est ce que vous dites.
Oui.
Donc, est-ce que vous avez toujours le même accompagnateur?
Pas toujours, ça varie. C'est juste qu'on vient, qu'on s'habitue. Il y a une grande complicité entre l'accompagnateur et la personne, comme moi, dans le besoin, mm-hmm. qui a besoin d'un accompagnateur.
Mais c'est vous qui décidez.
Il y a comme un contact.
Même
pas
si
vraiment.
Okay.
On demande, on appelle à PIMO et on demande pour avoir un accompagnateur 3 jours avant.
Okay.
Et même une fois par mois, on peut faire la réservation pour avoir un accompagnateur.
Mais quand vous vivez l'accompagnement, par exemple, quand vous allez au restaurant, etc., la personne vous écoute, elle écoute un peu vos besoins ou...
Très attentive à mes besoins, oui.
Okay.
Même au-devant. Si il voit l'accompagnateur que j'ai quelque chose qui peut me faire mal à quelque part ou mm-hmm. que j'ai besoin d'aide pour boire, ils vont m'aider à boire, à manger. Il aide pour m'aider pour payer des choses à la caisse.
Oui, quand on a des difficultés d'agilité, tout ça, parce que en sortant dehors, on n'a pas les mêmes habitudes, puis les gens, ils nous reçoivent pas toujours. Donc, souvent, j'imagine que l'accompagnateur est un peu intermédiaire ou permet d'aider à ce que les gens comprennent vos besoins.
C'est comme si l'accompagnateur complète les besoins, les choses que je dois faire, moi, que je ne suis moins capable de faire. Mm-hmm. L'accompagnateur complète mes mouvements, mes besoins. Comme moi, quand je vais magasiner ou à la banque ou chez Métro, faire des emplettes, mm-hmm. j'ai besoin de toucher à des articles. Alors, l'accompagnateur prend les articles et vient me le montrer pour que je le touche. Et après ça, je peux prendre la décision si je vais le prendre ou non. Mmh. Alors, c'est comme si c'est un complément.
Mmh. Ben, en fait, vous faites corps. C'est très particulier. Équipe. C'est une belle équipe que vous proposez avec l'accompagnement. Je me retourne maintenant vers Marie-Josée Dette, directrice générale de PIMO. Donc, c'est qui? On a deux belles personnes devant nous, mais qui sont les gens que vous aidez, en fait, à PIMO, exactement?
C'est sûr que la clientèle actuelle, c'est les personnes handicapées physiques motrices mm-hmm. qui ont un besoin d'aide physique, mm-hmm. 18 ans et plus. C'est ça. Là, pour l'instant, c'est ça depuis 1986, depuis la fondation de PIMO. Ouais.
Et donc, j'aimerais qu'on en parle davantage parce que l'accompagnement est mal reconnu au Québec. Mm-hmm. Vous êtes, par exemple, à Montréal, une des seules ressources qui existent. Comment c'est possible? Et surtout, j'aimerais que vous le dites, combien de personnes auraient besoin de vos services, pensons seulement à Montréal? Est-ce que vous le savez?
Oui, c'est ça. C'est sûr que PIMO, on est le seul service dédié exclusivement à l'accompagnement. Mm-hmm. Puis je reprends un petit peu le mot, le début de Daniel tout à l'heure qui nous disait qu'elle a été un an sans sortir. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a un nombre important de Québécois qui se retrouvent confinés à domicile. Oui. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne les rencontre pas, on ne les connaît pas. Mais il y a une enquête qui est sortie en 2011, l'enquête québécoise de limitation d'activité des maladies chroniques et du vieillissement.
Son petit nom, c'est Éclave.
Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, selon l'Éclave, on estimait que 84 000 personnes de 15 ans et plus, en fait, de Québécois, là, on parle au Québec. À travers la province, qui ont eu besoin d'aide pour aller à leur rendez-vous, faire des courses, ont témoigné ne pas avoir reçu assez d'aide ou pas assez. Là-dessus, si on ramène ces chiffres-là à Montréal, on parle de 20 000 Montréalais de 15 ans et plus qui ont déclaré des besoins d'aide non comblés pour aller à leurs rendez-vous médicaux. Là-dessus, ben, c'est sûr que ça comprend aussi la proportion d'aînés qui malheureusement, il y en a beaucoup qui vivent seuls, ils sont mm-hmm. sous le seuil de la pauvreté. Ouais. Et cette proportion d'aînés-là a triplé depuis 20 ans.
Non, mais c'est majeur, c'est très important de le souligner parce que, qu'on le veuille ou non, les gens qui ont plus d'argent ont tendance à peut-être embaucher des gens, mais souvent, les personnes en situation de handicap ont comme premier handicap la pauvreté. Puis les personnes aînées, là, on va se le dire, sont souvent davantage appauvries là, avec le temps. Donc, vous pensez à ces personnes-là et vous arrivez à en aider combien avec les maigres ressources que vous avez?
Bien là, c'est sûr qu'on a 200 membres. Oh, donc, c'est sûr qu'avec le potentiel qu'on voit, les chiffres qu'on a sous la
200
main...
200 sur 20 000 personnes possibles.
Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a besoin de sensibiliser la population et surtout les élus aux besoins de l'accompagnement qui sont criants, puis de mettre en place des services d'accompagnement partout au Québec, puis de financer Montréal qui est prêt à offrir le service parce qu'on a testé un modèle.
Ah, la ville de Montréal serait prête à financer le service?
Non, Montréal, la région. Quand je parle de... Okay. Oui, c'est ça,
donc,
de l'île, en fait.
C'est
oui.
Santé et services sociaux qui seraient prêts?
Ben oui, c'est la responsabilité du ministère de la Santé et services sociaux.
OK.
C'est ça. Mais aussi, ce que je dois soulever, c'est qu'en 2009, le gouvernement du Québec là, de l'époque a adopté la politique à part entière mm-hmm. qui a reconnu l'accompagnement dans ses priorités. Puis dans sa priorité, ce que ça dit là, textuellement, c'est que ça vise à rendre accessible aux personnes handicapées des services structurés d'accompagnement partout au Québec. Mmh. Fait que nous, à Pimo, en 2012, à la table accompagnement, on a adopté un modèle d'offre de services en accompagnement qu'on a testé en 2014 et 2015, qui a été testé avec succès, tout ça. Et là, actuellement, on est prêt à le déployer, ce modèle-là.
Ah oui, donc votre projet pilote que vous avez... déployé il y a peu de temps, vous a donné des résultats concluants.
Oui.
Et là, vous êtes prête à passer à une nouvelle phase. C'est ça
oui.
que vous me dites? OK.
Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait une campagne qui est en cours, qui court toujours.
Oui.
Il y a une pétition qui court papier jusqu'au 28 février, qui est accessible sur notre site Internet et via notre page Facebook.
Donc, c'est pimo.org, c'est ça?
Oui, puis la page Facebook, c'est Pimo Montréal. Il y a un lien qui nous amène directement à la page sur le site Web. Et c'est sûr que dans notre pétition, on demande un programme de financement provincial pour permettre à toutes les régions du Québec de se doter d'un service structuré d'accompagnement.
C'est essentiel ce que vous dites. Il faut rappeler que ça sera sur la page de notre émission, tous ces liens, non seulement vers Pimo, mais aussi vers la pétition. Et pour la retrouver, là, ce qu'on veut, c'est un programme de financement provincial permettant à toutes les régions du Québec de se doter des services dont vous avez entendu parler aujourd'hui, qui change la vie de ces personnes. Pas vrai, Madame Danielle? Vous trouvez que ça change la vie, l'accompagnement?
Moi, ça a comme transformé ma vie de blanc à noir. Là. C'est comme avoir un nouvel horizon vers le soleil, des plaisirs. Pimo est vraiment pour moi, là, et pour tous ceux dans le même besoin que moi, qui ont des déficiences physiques, c'est... Pimo est comme un organisme indispensable pour la société qui vieillit aussi, en plus. Et... je souhaiterais que j'inciterais à tous les organismes qui ont un petit peu de moyens monétaires d'encourager Pimo pour faire en sorte que
on
ait
que
plus d'accompagnateurs et que
bien sûr.
Ça continue à progresser pour aider le plus de gens possible dans le même besoin.
Très heureux. Écoutez, on soutient ça à l'émission. On est très contents d'avoir fait votre rencontre. Danielle Théoret, membre de Pimo.
Ça fait plaisir. Merci à vous.
Merci à vous, Guy Bernier, accompagnateur indispensable à la Voix d'Or en plus.
Merci beaucoup.
Merci de votre aide. Marie-Josée Dette, directrice générale de Pimo, on vous soutient.
Merci beaucoup.
Le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau, la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau, la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau, la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau, la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau, la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau, la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, que c'est beau, c'est beau. la vie.
Une émission pleine de vie, mais elle ne serait pas aussi belle s'il n'y avait pas des gens qui travaillent pour la rendre meilleure. Et avec nous, Francine David, présidente du conseil d'administration du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Bonjour, Madame David.
Bonjour, Monsieur Racette.
Bien, content.
Ça commence bien avec la musique « C'est beau la vie », ça commence bien l'entrevue.
Bien oui, en tout cas, c'est du côté positif des choses. C'est assez beau près de chez vous, vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, on voit avec le fleuve, c'est assez joli, ça donne envie de vivre la vie. Est-ce que vous habitez toujours le Bas-Saint-Laurent?
Oui, j'habite le Bas-Saint-Laurent. Je suis native de la Gaspésie, mais je demeure maintenant dans le Bas-Saint-Laurent.
Oui. Ah, vous êtes native de la Gaspésie?
Oui, mon accent vient de là.
Oui, ben, il est très beau aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous engagiez avec l'ORAC? Ça a commencé en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent?
Non, ça a commencé au Bas-Saint-Laurent. Ben, en 2001, ça a commencé dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Mm-hmm. En 2001, j'ai eu un accident d'auto, donc j'ai perdu une grosse partie de ma vision. Je suis considérée amblyope, j'ai un résiduel de vision. Okay. Je suis venue ensuite demeurer à Rimouski. Je me suis impliquée dans l'association régionale à Rimouski au début en organisant des dîners thématiques, genre Halloween, Saint-Valentin, des choses de même. Mm. Puis j'ai rejoint leur conseil d'administration, où j'ai appris l'existence du RAC.
Ah oui?
Puis en 2005, j'ai accepté de les représenter à l'Assemblée générale annuelle du RAC. Je me suis fait élire sur le conseil d'administration, puis j'ai collé. Je suis
<qu'on a. rire> Au grand bonheur des gens du regroupement, semble-t-il. Donc, vous êtes à la tête du conseil d'administration, vous êtes présidente depuis ce moment. En fait, pas depuis 2005. C'est en quelle année?
Je commence mon deuxième mandat, donc ça va être ma troisième année à la présidence.
OK. Puis qu'est-ce que vous souhaitez faire comme présidente du RAC? Ça serait quoi, d'après vous, votre rôle?
Mon rôle, j'ai un rôle de gestionnaire, c'est sûr.
Oui, OK. Mais dans la vie, dans les droits, pour les droits des personnes aveugles et amblyopes, qu'est-ce que vous faites avec le RAC, avec une équipe, là? Vous n'êtes pas toute seule quand même.
Oui, non, je ne suis pas seule, c'est sûr, là. Ben, je suis au service des membres qui m'ont assise à ce poste-là. J'ai un mandat à remplir, j'ai un plan d'action à suivre. Je dois être à l'écoute et essayer de leur répondre, de leur apporter satisfaction au meilleur de mes connaissances.
Ouais.
Les membres sont le moteur du RAC. Hein? Mais tout ça, c'est sûr que tout ça, je ne pourrais pas faire grand-chose. Là, j'ai un très bon conseil d'administration, des gens déjà formidables. Mon rôle est un petit peu de les stimuler, de m'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction.
On me dit que vous êtes une femme qui savait péper, en tout cas.
Ah, oui, c'est ça. En tout cas, j'essaie de faire mon possible. J'essaie de rendre le RAC le plus actif possible sur la scène.
Ça
le RAC,
quoi?
C'est un incontournable en déficience visuelle au Québec. Hein?
Oui, mais c'est le seul grand regroupement qui a comme premier objectif les droits des personnes aveugles amblyopes. Je parle, et c'est à travers le Québec que vous agissez. C'est quoi la priorité du RAC cette année à laquelle vous allez vous affairer, là, Madame David?
Oh mon Dieu, on a tellement de priorités au RAC, ça serait un petit peu long à vous en parler. On a beaucoup de dossiers de défense de droit, c'est sûr. C'est très gros, le RAC.
Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, un seul peut-être dont on pourrait parler maintenant.
Cette année, je dirais, moi, que je mettrais l'accent un peu, même si ça ne fait pas partie du mandat du RAC, sur le financement des organismes, parce que nos organismes rushent à remplir leur mission, pas mal, faute de fonds. Ça fait que même si ça ne fait pas partie de la mission du RAC cette année, moi, j'en fais un peu mon mandat d'aider nos membres auprès des instances gouvernementales, pour qu'ils soient mieux financés pour pouvoir rencontrer leur mission. Ça serait un de mes lettres motivées cette année-là.
Bon, votre grand souhait. Écoutez, on espère que les gens vont vous entendre. Et donc, on va devoir se quitter très bientôt, mais c'est quoi dont vous êtes le plus fier comme accomplissement depuis le moment où vous êtes au RAC?
Que je suis le plus fier,
oui.
Je pense que c'est la vie associative.
Ah oui, hein?
Je pense avoir beaucoup apporté ma couleur à la vie associative au RAC, là. Oui, on a amélioré nos relations avec les membres au niveau de l'information, au niveau de la consultation. J'ai formé des comités de travail au RAC, puis le conseil d'administration y a embarqué avec moi. J'ai distribué des responsabilités. Donc, au niveau de la vie associative, je suis assez fière de mon mandat jusqu'à maintenant. Là.
Donc, une femme de groupe, clairement. On va visiter quel site web pour en savoir plus sur le RAC, Mme David?
Là, c'est une bonne question.
On l'ajoute sur notre site web. On va l'ajouter. Je ne l'ai pas devant moi, je dois vous avouer. Je m'en excuse.
Oui, c'est... mon Dieu, j'ai pas l'adresse exacte.
Ah oui, je l'ai ici, pardon. C'est le raq.qc.ca.
raq.qc.ca.
Très bien. Au grand plaisir de vous reparler, Mme David. Merci beaucoup.
Ben, ça a été un plaisir. Puis merci à vous de vous intéresser au RAC.
Ben là, on a besoin du RAC, en fait. Et donc, je termine cette émission en remerciant toute l'équipe. Les gens qui sont passés à l'émission se retrouvent sur notre page, sur canalm.vuesetvoix.com ou sur le câble, si vous préférez, après toute la musique. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine et espérons qu'on fera ensemble un véritable accès libre.